Radio Immo, le zoom de l'info, interview, décryptage de l'actualité immobilière. En partenariat avec Alila, leader du logement pour tous.
Et bonjour à tous, merci d'être avec nous sur Radio Immo, merci de nous retrouver pour ce nouveau numéro du Zoom de l'Info. Aujourd'hui, je suis accompagnée de Mathieu Burin, cofondateur et président de EMEA. Bonjour.
Bonjour Bérénice.
Et on va parler d'un gros problème qu'on a en ce moment, voilà. Tout le monde en parle, la pénurie des matières premières. Alors bois, métaux, plastique, verre, en fait, il y a chaque matière première est touchée. Beaucoup de domaines sont impactés, notamment l'immobilier. Vous allez nous expliquer ça dans les détails puisque vous avez fait un comparatif en fait de l'augmentation des prix de ces matières premières.
Exactement.
Alors déjà, EMEA, qu'est-ce que vous faites ?
Qu'est-ce que c'est ? Et donc EMEA, c'est un studio d'architecture et de rénovation. Donc on accompagne les particuliers de A à Z, donc depuis la phase conception, la phase suivie et la phase bonne réception. Donc le but, c'est vraiment le constat, c'est faire des travaux, c'est compliqué. On ne sait jamais trop à qui s'adresser, on ne sait pas à qui faire confiance. Donc le but, c'est j'ai EMEA qui me prend par la main, c'est sécurisé, c'est simple et tous les aléas sont gérés.
D'accord. Donc là, vous constatez, vous êtes en première ligne pour voir qu'il y a un problème chez les fournisseurs.
Ouais.
Alors, vous avez sorti un comparatif. Le PVC, par exemple, a augmenté de 112%. Je crois que c'est un
des plus gros.
Oui, c'est ça. C'est la plus grosse augmentation.
Et donc, la date, juste pour bien structurer. Donc, l'analyse, elle porte depuis janvier 2020 jusqu'à juin, donc au 30 juin 2021. Donc, on est sur 18 mois, 10 ans. Exactement. Pré-Covid pré-vacances 2021. Et donc, juste pour comprendre un peu comment on est arrivé à ces éléments-là, pour structurer, donc EMEA, on fait un peu plus de 300 chantiers tous les mois et on voit passer quasiment 1 000 à 1 500 devis tous les mois.
D'accord.
Donc, gros volume et on est avec un peu plus de 150 partenaires, agences immobilières, banques et courtiers en prêt immobilier. Donc, ce qui nous permet de brasser un certain nombre de volumes et d'avoir des éléments qui sont assez tangibles. Et bien évidemment, on bosse avec tous les partenaires industriels, donc fabricants de matériaux, distributeurs, qui nous permet aussi d'avoir des éléments de l'autre côté de la barrière pour savoir qu'est-ce qui se passe.
Donc là, si je reprends votre comparatif, toiture, acier, cuivre, bois brut, aluminium, matériaux mousse, plate, carrelage, en fait tout est touché. Bon, la peinture, ça augmente de 15%, mais c'est quand même 15% plus. À quoi c'est dû en fait ?
Alors il y a deux éléments qui sont importants à prendre en compte. En fait, le premier, c'est les usines. Donc il y a eu un stop and go assez continu sur l'économie et donc en fait les usines ça met entre 1 et 3 mois à reprendre 100% de capacité de production. Donc quand vous décidez de changer tout le temps, typiquement sur, je prends l'exemple de la peinture, il y a une usine au Texas qui produit le blanc de titane. Donc le blanc de titane, c'est l'élément central sur la peinture, pour la création de la peinture. Sachant que la peinture, c'est dans 98% des cas des dérivés de pétrole. Donc vous avez trois grosses usines qui produisent ça dans le monde, Asie, États-Unis et Europe. Et donc en fait, Europe, c'est en Allemagne. Donc il y en a une qui a brûlé au Texas. Et donc l'explosion de la reprise, par exemple en Asie, et aux États-Unis a fait que grosso modo les coûts de transport ont explosé. Les coûts de transport, c'est x3. Et donc, comme quasiment rien n'est produit à côté de chez nous, en fait, il faut les importer. Et on est sur une offre et demande. Comme la capacité de production est limitée, plus les matières premières sont plus chères à acheter, en fait, vous êtes grosso modo sur tous les différents secteurs, les différents matériaux, matières premières, mais aussi produits finis, sur une augmentation.
D'accord.
Donc ça, c'est le gros élément. Et deuxième élément, c'est que il y a une demande qui est assez forte. En fait, on a effacé la crise. Enfin, en tout cas, on a effacé la baisse économique qui est liée à la crise sur 2020 par rapport à 2021 sur les chiffres. Grosso modo, tout le monde a besoin de construire, a envie de construire. Là où les capacités de production, elles, n'ont pas explosé. Donc on est sur un enjeu d'offre et demande. Et donc forcément, c'est celui qui achète plus cher. Et donc tous les prix montent vers le haut.
Ouais, et puis il y a un gros problème de logement en France aussi.
Aussi, mais pas que en France.
Pas que en France,
c'est un enjeu mondial. Hein.
Bien sûr. Après, on en parle beaucoup en France. Il y a les présidentielles qui arrivent, etc. Ça ne va pas nous aider, là, cette pénurie.
En fait, il y a deux sujets qui sont en parallèle. Il y a une prise de conscience que tout le bâtiment produit à peu près 30% des émissions de CO2 mondiales.
Ouais.
Donc, bâtiment, on met quoi ? On met la construction, on met l'exploitation et on met la démolition. Donc, en fait, déjà, juste ce sujet-là, tout le monde a pris conscience qu'il fallait rénover. Et donc, oui, il faut construire, mais il faut aussi surtout rénover.
Rénover, bien sûr.
Parce que l'enjeu, il est beaucoup plus efficace et il y a beaucoup de choses qui ont déjà été construites. Donc, ça, c'est un premier gros élément. Le deuxième élément, c'est qu'en fait, les gens, la reprise économique, elle a été là. Et donc, les deux ensemble font que, en fait, on maîtrise plus et l'offre et la demande sont complètement en train de partir en fumée. Les capacités industrielles, elles sont remises, mais en tout cas, il n'y aura pas d'évolution et en tout cas, pas d'amélioration jusqu'à Q3, donc jusqu'à fin septembre, c'est sûr et certain. Et après, on n'a pas la boule de cristal.
Mais ça, on reste sur quoi pour le savoir ?
C'est tous les retours des industriels.
D'accord.
C'est impossible que d'ici fin septembre, il y ait une remise, en tout cas, que les prix redescendent. C'est impossible. Et on ne sait pas qu'est-ce qui va se passer sur Q4. Et
donc, c'est minimum septembre.
Minimum. Aujourd'hui, la situation de tension, elle sera la même jusqu'à début octobre.
Du coup,
minimum.
Ça repousse des chantiers ?
Non, parce qu'en fait, c'est une question de comment j'organise et comment je suis accompagné. Et en fait, il y a un gros sujet d'anticipation. Donc, quel est le planning, quelle est l'anticipation et quels sont aussi les choix qui peuvent être faits. Typiquement, chez EMEA, nous, on conseille et on questionne nos consommateurs en disant, en fait, est-ce que vous voulez, par exemple, le parquet, donc le bois massif, il a pris à peu près 50% d'augmentation, là où le carrelage, donc la plaque de carrelage, elle a pris à peu près 20%. Donc, l'enjeu, c'est qu'aujourd'hui, sur des matériaux équivalents, en fait, il y en a un qui a pris quasiment x2 par rapport à l'autre en augmentation. Donc l'enjeu, c'est est-ce que vous voulez garder du matériau brut de bois ou est-ce que vous voulez changer et mettre des équivalents ? On commence à être sur des enjeux de comment je gère correctement les stocks, comment j'anticipe mes travaux en amont en disant typiquement des fenêtres où il y a du PVC. Alors ça représente entre 5 et 15% de la fenêtre, le PVC, donc tout ce qui est autour et tous les linteaux et sur quoi je pose sur le bâti. Mais en fait, il faut l'intégrer. Et donc l'enjeu, c'est si je signe aujourd'hui un devis maintenant, mais que dans 2 mois, le prix du PVC, il reprend 30%, en fait, comment je gère correctement pour éviter d'être dans l'angoisse et l'anxiogène que l'entrepreneur il va pas gagner sa vie donc il va répercuter ça sur le consommateur et donc on est dans un cercle qui est pas du tout agréable. Et donc c'est là où nous aussi on recommande à nos entrepreneurs mais aussi à nos clients de dire en fait il faut que vous anticipez vos achats, il faut que vous maîtrisiez et il faut qu'on vous aide à vous accompagner sur est-ce qu'il y a des choix de substitution que vous pouvez faire, est-ce qu'il y a des choix techniques aussi que vous pouvez faire.
Et ce serait quoi par exemple la substitution?
Substitution, c'est est-ce que vous prenez du parquet ou du carrelage?
D'accord.
Un exemple très très bête qui va parler à tout le monde, mais par rapport à l'année dernière, vous avez pris entre 10 et 15%. La peinture, c'est pareil. Est-ce que vous refaites tout? Est-ce que vous faites d'autres choses? En fait, il y a plein de solutions techniques qui existent. Après, il n'y a pas de miracle, les prix augmentent, mais le but, c'est de dire comment je l'anticipe et je suis accompagné dans cette démarche-là et je ne suis pas tout seul. Parce que l'entrepreneur, ce qu'il sait très bien faire, c'est faire des travaux et il a de l'or dans les mains. Gérer le côté administratif, le côté augmentation de prix, le côté stock. Parce qu'en fait, qui dit augmentation de prix, dit stock, dit disponibilité. Si mon chantier il prend 6 à 8 semaines parce qu'en fait, ce que je voulais commander n'est pas dispo, ça a un impact. Parce qu'il faut payer un loyer, il faut attendre, il y a des échéances de prêt, etc. Donc, en fait, il y a tout cet effet boule de neige qui, s'il n'est pas anticipé, est toujours désagréable. Alors qu'en fait, s'il est maîtrisé, et en tout cas, si on sait qu'on fait un choix sur lequel il va y avoir 6 semaines de délai, en fait, on le maîtrise, ce choix-là, et on est capable d'anticiper les éventuelles hausses et les choix de matériaux et techniques.
Après, est-ce qu'on peut vraiment tout anticiper? Parce qu'il y a des... Enfin, moi, j'ai vu pour avoir fait des travaux là dernièrement, quand on va chez un fournisseur, pour ne pas le citer, un grand fournisseur, il savait même pas en fait quand les stocks allaient rentrer.
C'est un fournisseur grand public ou pro ?
Les deux.
Et on peut le citer pour...
Par exemple, le Roi Merlin, okay. On ne sait même pas, en fait. Il y a des produits, que ce soit peinture, vous l'avez dit, carrelage, bois...
En fait, ça, c'est les grandes surfaces de bricolage. Et comme elles ont une cible un peu autre, en fait, elles ont elles-mêmes leur propre stock. Là où, en fait...
Après, il y a des choses qui faisaient venir d'ailleurs.
Oui, mais en fait, ils ont leur stock. Les GSB sont en mesure d'avoir les stocks. Après, les entrepreneurs, ils utilisent très peu ces solutions-là. Aujourd'hui, c'est des distributeurs pro et des industriels pro.
Ouais.
Donc, en fait, c'est pas la même chose. Mais typiquement, un Rexel, qui est leader français et mondial sur la partie énergétique, en fait, il est capable d'avoir une visu sur ses stocks. Mais l'enjeu, c'est de dire, je veux placer du Schneider ou du Legrand.
Ouais.
En fait, quel est le stock que je veux sur mon tableau électrique, par exemple? Et donc ça, c'est de l'information, de l'anticipation et du planning. Et là, il faut être accompagné. Après, il se peut qu'il y ait une pénurie sur tel et tel élément chez les deux fournisseurs. Mais en tout cas, être capable de l'anticiper, d'être accompagné là-dessus, ça va diminuer le stress et ça va permettre de se projeter sur un vrai projet.
Oui, donc c'est sûr qu'il faut mieux être accompagné.
C'est toujours pareil, c'est une vraie expertise et les travaux d'architecture, c'est un métier. Faire du planning, faire de la conception, faire du suivi de chantier, tout ça, c'est un métier. Et donc, soit vous avez le temps de le faire, mais ça veut dire qu'il faut le bon niveau d'information et vous allez discuter avec les bons partenaires pour le faire. Soit vous dites que c'est pas votre métier et en fait vous allez le déléguer, faire traiter par quelqu'un comme EMEA sur un produit. Enfin, c'est un studio d'archi de rénovation. Donc en fait, on sait faire la partie conception, on sait faire le suivi de chantier, on vous accompagne jusqu'à la fin et tout ça, on l'anticipe puisque c'est dans nos process. Après, c'est pas un miracle, on n'a pas la boule de cristal. Mmh. Et si du jour au lendemain il y a encore une usine qui explose ou une autre qui s'arrête, on faudra gérer l'alerte.
Est-ce que vous conseillez à certains de vos clients de reporter certains types de travaux à l'année prochaine, par exemple, ou pas ?
Encore une fois, mon avis personnel là-dessus, c'est qu'il y a eu tellement d'épargne. On parle de entre 150 et 200 milliards d'épargne.
200 milliards, oui.
Et donc, en fait, en France et en Europe, l'immobilier, la pierre, ça reste quand même un placement qui est sain, qui est rassurant. Si l'inflation, elle augmente pas, en fait, je vois pas de raison pour que les prix de matériaux diminuent.
Alors, je parle pas que pour le prix, hein. Je parle aussi pour tout ce que vous disiez, l'angoisse de est-ce que ça va prendre tant de temps, c'est repoussé, etc. Est-ce que du coup vous conseillez quand même d'attendre avant de lancer les travaux ou...
Moi je pense qu'il faut le faire.
Il faut le faire
parce qu'en fait je pense pas que dans 12 mois la situation sera beaucoup plus positive.
On sait pas ce qui nous attend en fait.
Au mieux elle sera identique et en fait on aura régulé la gestion, etc. Au pire les prix auront continué d'augmenter, on aura peut-être eu une cinquième vague ou une sixième vague. Et le but c'est pas du tout d'être anxiogène, c'est plutôt dire qu'un chantier bien préparé est un chantier qui finit à l'heure. Oui. Là où un chantier qui n'est pas préparé, en fait, je peux vous assurer qu'il ne sera pas à l'heure. Mmh. Et donc l'enjeu, ce n'est pas d'aller vite et de faire mal, c'est de prendre le temps de bien préparer son chantier, par contre de le lancer, parce qu'attendre 6 mois, 12 mois, je pense que fondamentalement, la lame de fond qui est il y a de l'argent, il y a budget, c'est un investissement qui reste rentable, avec un bon ROI et qui est rassurant. Je pense que ça va rester pendant quelques années. Et en plus, il y a le télétravail, donc les gens vont rester chez eux. Il y a toute la notion énergétique, le confort énergétique, l'efficacité du logement. Donc tout ça fait que, en fait, je pense qu'il va y avoir des très beaux jours pour le bâtiment, parce que c'est nécessaire. Et en plus, c'est win-win, puisqu'il y aura l'aspect écologique, l'aspect économique et l'aspect efficacité. Et donc, a priori, les gens vont vouloir faire les travaux.
Et vous qui travaillez avec des entrepreneurs au quotidien, comment eux ont vécu ça ? Comment ils vivent encore ça, cette pénurie ? Est-ce que ça les désespère ? Comment ils sont mentalement ?
Je suis pas exactement dans leur tête, mais en tout cas, moi je peux vous parler des gens avec lesquels on bosse. Le but, c'est... C'est pas leur métier, ce ne sont pas par définition des bons entrepreneurs qui travaillent très bien, qui sont bons techniquement, c'est pas des gestionnaires. Ouais. Et donc, ils ont besoin d'aide là-dessus, de la même façon qu'ils ont besoin d'aide pour faire des devis plus efficients, pour acheter mieux et en tout cas prévoir et préparer leur chantier. Donc tout ça, c'est des sujets sur lesquels nous, on les aide et c'est notre cœur de cible. Donc nous, notre enjeu, c'est comment on bosse avec les bons entrepreneurs pour qu'on les accompagne, on les fidélise avec la gamme complète de services qui est à leur destination pour que ça marche bien. Donc ça, c'est une partie du business des maires. Donc forcément on les aide. Après je pense que tout le monde a besoin, sur des sujets qu'il ne maîtrise pas, de se faire accompagner, de se faire coacher. Et donc là un MR, c'est typiquement notre vocation, permettre à chacun de se concentrer sur l'essentiel. Les pros, c'est de faire des beaux travaux, les particuliers, c'est de se projeter dans leur habitat, de chez eux, confort, etc. Donc ça, c'est notre vraie mission et là on s'y attelle encore plus qu'avant.
Et l'État qui s'est soucié, enfin qui commence à se soucier justement de cette pénurie, qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que c'est effrayant justement ? Est-ce que c'est une bonne chose ?
En fait, je pense que le marché, enfin c'est un marché qui va être régulé, qui va s'auto-réguler par l'offre et la demande. Donc je sais pas ce que peut faire l'État à part ouvrir de nouvelles usines. Et fondamentalement, je pense que c'est juste sonner la sonnette d'alarme, mais tirer. Mais fondamentalement, je pense que ça changera pas grand-chose.
Oui. Est-ce qu'il y a un problème d'ordre mondial, en fait
C'est exactement ça, en fait.
Que la crise sanitaire a montré, a mis en lumière.
Ouais, en fait, on est dans un monde global et en fait, les matériaux ne viennent pas de France, en fait, et ne sont pas produits de France. Donc, faut être très humble sur cet élément-là. Je pense qu'il va y avoir des industries...
Qu'est-ce qui vient de France, en fait ?
Alors, je sais qu'il y a... je vais pas dire de bêtises, mais typiquement nous on bosse avec Jacob Delafont et je sais qu'il y a des usines qui sont faites en France, les usines Legrand sont à Limoges, donc il y a plein de choses, mais en fait dans le détail, si je vous dis ça, il faut creuser vraiment dans le détail les matières premières et les matériaux qu'on met dans les dans l'appareillage électrique. Et en fait, tous les éléments qui sont les mêmes éléments que le smartphone, je pense pas que ça vienne de France.
Ah bah non, le smartphone, il y a qu'en Chine qu'on fait les fameux.
Donc je suis pas expert là-dessus, donc je vais pas me prononcer, mais il y a des usines en France, il y en a encore. Typiquement, j'ai cité Jacob, j'ai cité Legrand, il doit y en avoir d'autres. Mais en fait, les éléments de matière première et d'assemblage, en fait, ça vient un peu partout dans le monde.
Ouais.
Donc faut avoir cette notion-là. Je pense qu'il va y avoir des industries qui vont se rapatrier, en tout cas, des vraiment. Cœur de cible qui vont revenir en France, mais aujourd'hui moi j'ai pas la boule de cristal et je pense que oui, le gouvernement, de la même façon que le gouvernement on a découvert que le paracétamol était pas fait en France, et finalement on va se rendre compte qu'on va en remettre en France, donc je pense qu'il va y avoir ce type de réflexion là et qui est très intéressante. Les industriels, ils ont bien compris qu'on est sur un enjeu local et global à la fois. Un Schneider Electric, il sait déjà qu'ils ont des pôles, ils ont des usines un peu partout sur tout le continent, justement pour éviter les stop and go des différents, et ça c'est déjà le cas, donc ils sont déjà bien câblés, et je pense que le gouvernement changera pas grand chose là-dessus, et c'est quand même des très très grosses boîtes qui ont plus de 200 ans, ils ont pas besoin du gouvernement. Après, les aléas de marché, l'offre et la demande et la situation macro, ça, pas grand monde le maîtrise. Et donc, j'espère qu'on va sortir par le haut de cette situation.
Et vous, au niveau de votre activité, comment ça s'est passé là depuis janvier 2020?
Comment ça s'est passé? Donc, nous, on a eu une chute du chiffre d'affaires assez violente en mars-avril 2020, ouais. Puisqu'on n'avait plus le droit de faire des travaux chez les particuliers. Et les particuliers sont chez eux, donc forcément, on arrête tout. Ça a bien repris après. Et en fait, finalement, on fait notre meilleure année. Ever, on fait
2021.
On fait plus de 100, entre 100 et 200% de croissance là sur le premier semestre, donc ce qui est entre x2 et x3, donc ce qui est très très bien pour une boîte comme la nôtre et en forte croissance. Après, on va voir ce qui se passe, parce que là, il va y avoir un enjeu de quand les entrepreneurs sont surchargés, en général, 2-3 mois après, il peut y avoir des sujets et il va y avoir un enjeu de gestion, de trouver les bons entrepreneurs, les dispos, et en plus avec ces matières premières. Donc, on est prudent. Nous, on pense que dans tous les cas, dans 3, 5, 10 ans, le secteur du bâtiment, de la rénovation, parce que nous, on est vraiment sur la rénovation, il va se porter bien parce qu'il va falloir le faire et c'est une lame de fond. Donc, ça, on est très confiants.
On a plus le choix, il y a la loi qui est passée.
Et c'est très bien. Et l'Europe est en train de prendre vraiment position sur le fait que l'enjeu énergétique et écologique, en fait, c'est une urgence, une vraie urgence. Et de la même façon qu'on a une urgence sanitaire, j'espère qu'on va avoir une urgence écologique, parce qu'en fait, c'est un énorme sujet. Après, la question, c'est comment on exécute ce plan-là. Mais j'ai pas de doute sur le fait que les gens vont faire des travaux et qu'ils les feront pour avoir un meilleur confort et une meilleure efficience énergétique. Ça, je suis sûr et certain.
La gestion, et pour pouvoir louer aussi leurs biens, il y a plein de raisons.
Tout. Mais indépendamment de ça, juste le côté écologique, il suffira. Parce que je pense que les gens, on va prendre conscience qu'en fait, on a
les gens terre. Prennent conscience, en fait.
Ça arrive. Donc c'est long, ça va demander des changements de d'état d'esprit, mais ça arrive, et donc ça c'est très bien, et il faut le poursuivre. Après, il faut le poursuivre avec des entrepreneurs qui sont de qualité, il faut un vrai accompagnement pour tout ce qui va changer, parce qu'en fait ça va impliquer du changement. Donc il va falloir des entreprises comme les nôtres, comme EMEA, qui vont permettre d'accompagner tous ces consommateurs vers le changement, vers des matériaux plus efficients, des techniques plus efficientes, des habitats plus écologiques, plus confortables. Et donc ça c'est la courbe. Elle est très positive et la tendance est très positive.
D'accord. Eh bien, on attend de voir en tout cas cette probable reprise, là, cette baisse des prix. Merci beaucoup Mathieu Burin. Je rappelle que vous êtes cofondateur et président d'EMEA.
Merci beaucoup.
On se retrouve très bientôt pour un prochain Zoom de l'Info.
Radio Immo, le Zoom de l'Info, interview, décryptage de l'actualité immobilière. En partenariat avec Alila, leader du logement pour tous.